Alors le professeur Will Ray Brooks vient de l'université de Leiden, où il travaille à l'Institut d'archéologie. Et c'est un chercheur qui a travaillé sur de nombreux sites paléolithiques, qui a produit un grand nombre de recherches à la fois en Europe, mais aussi récemment qui a travaillé sur les gisements Homo erectus d'Indonésie. Je pense qu'il en dira peut-être un mot ou deux au passage. Et c'est un chercheur qui s'intéresse à la fois aux données purement archéologiques, mais aussi aux données qui viennent d'autres champs disciplinaires, et en particulier qui est ouvert justement à l'évolution biologique, à l'évolution des environnements, et qui essaie de produire une vision intégrée de l'évolution humaine sur cette période qui nous intéresse aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Et mes remerciements à professeur Rubelet pour m'avoir invité de parler ici. Je dois avouer que je me sens un peu mal à l'aise parce que mon français est très très limité et je dois aborder un problème très complexe, le problème de la complexité comportementale néandertalienne avec un vocabulaire et une grammaire assez simple. Alors, on verra. Je dois aussi dire que je suis un peu mal à l'aise avec le thème de la complexité comportementale néandertalienne parce que ce thème vise surtout sur des choses abstraites comme symbolisme, cognition, etc. Et ce sont des choses qui ne fossilisent pas très bien, qui sont des concepts abstraits, difficiles à lier au silex et ossements et les sédiments avec lesquels nous, archéologues, travaillons normalement. Et comme le professeur Rublin a déjà évoqué il y a peu de temps, c'est aussi un domaine de recherche où il y a beaucoup des écoles différentes. Il y a des collègues, quelques collègues américains, par exemple, qui pensent que la complexité comportementale néandertalienne n'existe pas. Ce sont des points de vue assez extrêmes, mais pour ces collègues, et je respecte leur approche, ce qui est une approche avec une hypothèse zéro qui dit qu'il y avait des grandes différences entre l'homme moderne et les néandertaliens. Pour des collègues qui ont un point de vue comme ça, cette séminaire pourrait être très, très bref. Parce que la complexité n'existe pas, ou presque pas. Et c'est bien illustré par un article qui vient de paraître par un collègue, Curtis Merriam, qui a, et cette diapo va revenir quelquefois, un article de l'Annual Review of Anthropology, il a comparé ici le comportement des Néandertaliens entre 200 000 et aujourd'hui, l'année zéro. Et ici, on voit des indications pour des formes de comportement complexes comme registrées par les données archéologiques chez les hommes modernes, surtout en Afrique du Sud, un des berceaux de l'humanité moderne. Et vous pouvez voir, par exemple, que ici, le monde néandertalien, pour Merriam, c'est un monde vide des indications pour un comportement complexe. Lorsque les données archéologiques de l'Afrique du Sud indiqueront que ça, c'est un autre monde. C'est le berceau du comportement compliqué qui est associé avec les hommes anatomiquement modernes. De l'autre côté, il y a ceux qui projettent, pour utiliser le mot utilisé par Jean-Jacques, qui projettent ce que nous pensons des chasseurs-cueilleurs actuels dans le passé et qui font des Winnetou, des Néandertaliens du Pléistocène. Des Winnetou avec des décorations de plumes, des serres d'aigle, des décorations par ocre et manganèse, etc. Et ça, c'est un peu, ce sont un peu les deux extrêmes. Le vue de Curtis Marion, comme illustré par son article très récent, et des reconstructions comme celle ici. Et je dois avouer que comme les archéologues sont un peu coincés entre les deux extrêmes, qui ont des avantages. Il est bon qu'il y ait des points de vue complètement différents parce que ça stimule les archéologues et les jeunes chercheurs, les étudiants, de s'engager dans ces débats. Sans débat, il n'y a pas de progrès. Et ce que je veux faire cet après-midi, c'est vous montrer un peu, partager un peu les doutes sur les deux points de vue. Alors, vous ramenez un peu dans la cuisine de l'archéologue qui essaye d'interpréter les données archéologiques dans avec des concepts abstraits comme symbole, cognition, etc. Et j'ai structuré les 50 minutes un peu comme ça. Je veux dire quelques mots sur le néandertalien. Ce n'est pas nécessaire parce que tout a déjà été évoqué dans les cours des semaines dernières. Je veux dire quelques mots sur la visibilité de complexité sur les chasseurs-cueilleurs actuels et dans le passé. Je veux parler un peu, comme M. Hublin a déjà fait, sur les problèmes avec l'identification des artefacts comme étant des symboles, parce que ça ce n'est pas évident. En principe, on ne peut que savoir ce qui était un symbole si on connaît le contexte culturel qui a créé le symbole, et le contexte culturel a disparu, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, un survol de la culture matérielle des hommes modernes et des néandertaliens, déjà fait par le professeur Hublin, mais avec une autre focalisation. Et je veux finir avec quelques mots sur les différences entre néandertaliens et hommes modernes. Svante Paabo, dans un des premiers cours, séminaires, a déjà évoqué que les néandertaliens et les hommes modernes étaient membres d'une grande population, une métapopulation qui était séparés, mais qui étaient aussi liés par ce que les Anglais appellent, je ne sais pas comment le dire en français, du gene flow qui était très, très limité, mais qui était là et qui est encore mesurable aujourd'hui. Les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs, comme Patrick Auguste a déjà évoqué dans un des séminaires, chassant une large gamme des grands mammifères. Ils étaient actifs dans une grande région, à peu près 10 millions de kilomètres carrés, c'est une estimation, bien sûr. Vous avez vu les cartes du professeur Hublin indiquant ça. Vous venez de voir les lances de Schöningen, qui datent il y a 300 000 ans. On connaît alors les armes de chasse avec lesquelles ils ont chassé leur gibier. Ici, à Schöningen, c'était des grands chevaux, plus que 20. Ils étaient pas seulement des chasseurs-cueilleurs, mais ils étaient des chasseurs-cueilleurs pas seulement visant les grands mammifères, mais les données archéologiques indiquent une diversité alimentaire, y compris des petits mammifères, des oiseaux et des reptiles. Et comme Amanda Henry a vous présenté, je crois, il y a une année, ce n'était que de viande, ils avaient aussi des ressources végétaux qui parfois étaient cuites, comme Amanda Henry dans le laboratoire de Jean-Jacques Hublin a constaté plusieurs fois. Et il y a même plus, nos collègues travaillant dans l'Afrique du Sud ont insisté sur le rôle important, prépondérant des ressources marines, et ça serait une des grandes différences entre les stratégies alimentaires néandertaliennes et les hommes modernes dans l'Afrique du Sud. Et ce débat a stimulé des nouveaux recherches qui ont livré des données qui nous racontent que En Espagne, par exemple, un site à Murcia, il y avait une consommation des moules, pas marinières, mais des moules, à partir de au moins 150 000 ans, jusqu'à la fin du monde néandertalien. Il y avait une utilisation des fruits de mer par les néandertaliens aussi. Alors, on a une image d'un régime alimentaire plus diversifié que nous avons pensé il y a 10 ans. Tout le résultat de ce grand débat entre les Winnetou et les autres. Mais vous savez tout ça. Ça a été déjà raconté plusieurs fois dans les cours et les séminaires. Admirable que nos étudiants suivent les cours en Internet. Alors c'est magnifique, ce système du Collège de France. Complexité comportementale et la visibilité. Ici, vous voyez des pièces lithiques faites par des aborigènes australiens qui, du point de vue morphologique, ne seraient pas hors contexte dans une grotte dans le Périgord. Et il est important de reconnaître que les gens qui ont produit des artefacts comme ça étaient des descendants des voyageurs qui ont utilisé des bateaux pour coloniser l'Australie il y a à peu près 40 000 ans, utilisant dans le domaine lithique une technique qui est très, très simple, comme nous le connaissons aussi du centre de l'Australie, de la Red Desert, les déserts, où des chasseurs-cueilleurs ont survécu pour des milliers d'années avec une technologie très, très simple, très efficace, mais qui était composée par un savoir-faire et une connaissance de leur environnement beaucoup, ou très, très, très détaillé. On sait que le concept de chasseur-cueilleur doit être nuancé. En Tasmanie, il y avait et en Australie, cette branche allumée était un très important outil dans la manipulation de l'environnement. En brûlant l'environnement, on a créé des nouveaux ressources, on a dirigé la présence de gibier, etc., etc. Lorsque, du point de vue matériel, qui reste pour l'archéologue à fouiller, ça n'existe pas. C'est très, très, très simple. Alors, l'anthropologue Lewis Binford, qui est décédé il y a quelques années, il disait toujours, avec un Kalachnikov, on ne doit pas savoir beaucoup. Et ça veut, avec cette expression, il voudrait exprimer que si on a une grande connaissance du comportement du gibier et des ressources dans l'environnement, des technologies simples sont parfois suffisantes, comme illustré ici par une trappe de gravité utilisée par des chasseurs en Afrique. Alors ça pour la visibilité du complexité technologique dans notre donnée archéologique. L'absence ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas complexes, mais que la complexité était dans des domaines qui ne se fossilisent pas si facile que les cailloux, les silex taillés. Alors, retournons aux articles de Curtis Marion. C'est difficile à lire, j'avoue, mais ce n'est pas grave parce que ce qu'il fait, et ce que je veux expliquer, c'est, selon lui, des artefacts et des gravures dites symboliques apparaissent d'à peu près 150 000 ans dans le monde de l'Afrique du Sud, dans le monde le berceau des hommes anatomiquement modernes, lorsque c'est le désert glaciaire dans le monde néandertalien, dans ce point de vue, de son point de vue. Et c'est vrai, l'Afrique du Sud, les fouilles récentes des dernières deux décennies, des décennies, ont livré énormément des trouvailles qui sont fascinantes. Ici, par exemple, vous voyez deux coquillages à peu près 10 cm, plus ou moins, qui étaient des récipients de liquide d'ocre rouge. L'ocre rouge qui avait été construit avec des recettes qui ont été reconstruites par deux archéologues de Bordeaux, Francesco Derico et Marianne van Haren. Et ici, vous pouvez encore voir une pièce d'ocre. Et à ce site, Blombos, en Afrique du Sud, on a trouvé des grandes quantités, des milliers de pièces d'ocre rouge à partir de 100 000 jusqu'à 70 000. Alors, une longue, des millénaires de l'utilisation d'ocre rouge dans cette cavité, dans cette grotte. Aussi, mais très rare, que deux pièces de l'ocre rouge avec des incisions géométriques, comme vous pouvez peut-être voir ici, des petites pièces d'ocre, ça c'est un centimètre, avec, avec des incisions géométriques. Et Blombos, le site de Blombos est devenu très célèbre à cause des coquillages qui ont été trouvés là, qui sont interprétés comme des éléments des parures. Et de nouveau publié par Francesco Derico et Marianne van Haren de Bordeaux. Ce sont les meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine. Et ils ont constaté qu'il y a 70 000, les habitants de Blombos sont venus sur les plages qui étaient à peu près 20 km du site, ont ramassé des coquillages d'une certaine grandeur. Ils ont ramassé que les plus grands, d'une espèce Nassarius krausianus. Ils ont percé des trous dans les coquillages et enrobé quelques-uns de ces perles avec ocre rouge. Et l'interprétation, c'est que c'était des éléments de décoration personnelle, de colliers ou de bracelets, parce qu'il y a les études microscopiques ont montré qu'il y avait des facettes d'usage, d'usure, sur ces coquillages, dont on a retrouvé une quarantaine, 40, si je me souviens bien de ce niveau. Mais comment interpréter des choses comme ça? Le communiqué de presse, qui était associé avec la publication sur les parures de Blombos, sur les perles de coquillages de Blombos, donnait une bonne résumé, disant que des milliers de fragments d'ocre rouge provenant de ce site et surtout le fait que les coquillages les couches qui ont livré ces bijoux ont aussi livré beaucoup des pièces d'ocre rouge et inclut le petit bloc avec les incisions géométriques. Et ça est interprété comme un langage et des capacités cognitives proches de notre semble être un prérequis essentiel pour transmettre la signification symbolique de ces parures et des représentations abstraites gravées provenant des mêmes couches archéologiques. Ça veut dire que les auteurs pensent que les blocs gravés géométriques avec les incisions géométriques et les perles, les éléments de collier, décoration personnelle pour décorer soi-même indiquent l'existence des symboles, et ça veut indiquer qu'ils avaient un langage comme les hommes modernes. Ça, ce sont des façons de raisonner qui sont très, très, très acceptées dans le monde archéologique. Mais il y a un linguiste, aussi par hasard, je ne sais pas si c'est par hasard ou non, sud-africain, Rudy Botha, qui a fait une, on pourrait dire, une dissection anatomique de cette façon de raisonner. Rudy Botha dit, alors, pour lui, excusez-moi, ça c'est pris d'un article en anglais, il a fait explicite comment les auteurs sont venus de, des observations sur le coquillage jusqu'à des conclusions que les habitants de Blombos étaient des hommes modernes avec un langage comme moi et vous. Alors, le premier approche allait des observations sur les coquilles, alors sélectionner, transporter du plage à la grotte sur une distance de 20 km, percer des trous, reconstruire l'usage par des études microscopiques, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut reproduire, et ça, je crois que tout le monde serait d'accord que ça veut, avec la conclusion que les coquillages étaient vraiment des éléments d'une parure ou d'un collier. Ça, pas de problème. Reproduisable. Mais après, aller de décoration personnelle jusqu'aux conclusions que le comportement des hommes modernes là était guidé par des symboles, ça c'est une autre assumption. Parce que vous vous souvenez l'exemple de la vulture barbue donné par Jean-Jacques Hublet il y a une heure. Pourquoi est-ce que les décorations personnelles doivent être interprétées comme symboles? Et qu'est-ce que c'est un symbole? J'ai pris ma Larousse, bien cachée, et le Larousse disait « Le symbole est tout ce qui est ou peut être considéré comme le signe figuratif d'une chose qui ne tombe pas sous les sens. Il exprime un rapport entre deux éléments, le signifiant, le perle, qui est sa forme objectivement visible, et le signifié, qui est son contenu subjectif défini par le contexte culturel. » Comme j'ai déjà dit, le contexte culturel s'est passé, c'est disparu. Alors, on peut faire des interprétations, mais ce sont des interprétations pas testables. Je dois insister, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec des chaînes de raisonnement comme ça, mais on doit jouer le jeu d'une manière très, très claire. Alors, est-ce que c'était des symboles? Si on utilise l'exemple de notre pauvre vulture ocrée, il y a des autres raisons pour se décorer. Et Botha a bien sûr les plus grands problèmes avec sauter de l'utilisation du symbole jusqu'à la conclusion qu'ils avaient des langages complètement modernes. Je vous ai dit que je veux vous faire un tour des doutes de l'interprétation archéologique. Ça, c'était le plat principal. Maintenant, il y aura des choses plus agréables. Jean-Jacques Fier vous a présenté la culture matérielle des Néandertaliens liée formes de comportement un peu complexes. On les a. Ils venaient de discuter le château perronnier, là où on a des pièces d'ocre, des pièces de dioxyde de manganèse, des outils en os, des nouveaux types d'outils en os, et beaucoup des bijoux, des dents percées, etc., qui très probablement ont été créés par les Néandertaliens, très probablement par les derniers Néandertaliens, et peut-être sous l'influence, comme Jean-Jacques venait de dire, des hommes modernes arrivant en Europe à ce temps-là. Mais, OK, les Néandertaliens ont aussi fait des décorations personnelles. Ils avaient des ornements comme ça. Vous avez vu le lessoir, je ne veux pas... Je ne veux pas discuter ça. Mais il y a, avant cette période du château Perronnier, il y a quelques indications que les Néandertaliens ont aussi manipulé du coquillage pour des raisons qu'on ne connaît pas, bien sûr. Un groupe, avec comme premier auteur Zhao Ziliao, a publié des coquillages qui ont été trouvés en Espagne, des coquillages marins qui ont été transportés sur des distances de 60 km entre 40 000 et il y a 50 000 et qui ont été où on a appliqué de l'ocre rouge. Ça date du période néandertalien, pas du tout. Il n'y a pas de doute là. Et une de ces grottes est à peu près une dizaine de milliers d'années avant qu'on pense que les hommes modernes entrent dans le monde néandertalien. Ce qui est très intéressant, ce que Zhao a publié dans un autre article, c'est que cette pièce de pecten, cette coquille pecten, pièce marine, ramassée sur des plages qui étaient à 60 km de ce site, dans des niveaux gravettiens, ça veut dire des niveaux produits par des hommes modernes, il y a 25 000 ans, alors 25 000 ans après le transport de ces trucs par les Néandertaliens, on trouve des pectens comparables aussi au cré, etc. Ça veut dire qu'il y a une continuité de l'utilisation de ces trucs de coquilles, même si les hommes modernes sont arrivés. Le site qui a livré ce type de pecten est à 2 km du Cueva Anton, dans le même, alors, au coin. Et on peut continuer. Dans le monde néandertalien, il y a, et je veux insister à cause de ce débat, le débat entre les Néandertal bashers et les Néandertalophiles, ceux qui font des Winnetou des Néandertaliens, on est en train de reanalyser des anciennes collections. Et il y a quelques années, il y avait une publication sur l'utilisation des serres d'aigle, les Eagle Claws. Cette publication est sur Krapina, c'est un site près de Zagreb, en Croate, qui a été fouillé il y a plus qu'un siècle. Et là, on a retrouvé dans les réserves du musée des serres d'aigle qui ont des traces de lames de silex, des traces d'usure, traces d'usage qui, selon les auteurs, indiquent que les serres étaient jadis des éléments d'une parure, ce que c'était des bijoux. Le même a été suggéré pour des autres sites, surtout en France, les Fieux, Combes, Grenal, Pêche de la Zée, je crois. Il y en a plusieurs sites où on a indication que les Néandertaliens s'intéressent pour les serres des grands rapaces. Ça ne veut pas dire que l'interprétation des bijoux est correcte, mais dans le monde néandertalien, il y avait quelques individus qui s'intéressaient pour cette catégorie venant des rapaces. Mais aussi ici, c'est toujours la même approche. Ça, c'est en anglais, c'est le résumé, je m'excuse. Ils disent que les auteurs disent qu'il y a des quatre cerfs qui ont des cut marks, des traces de découpage. Ils ont des facettes d'usage qui suggèrent qu'ils étaient éléments dans une bijouterie. Ils étaient des éléments de parure. Et même la présence de ces cerfs indique que les Néandertaliens de Krapina ont ramassé et conservé les cerfs d'aigle pour des raisons symboliques. Et après, on veut dire, après, la conclusion est que, parce que j'ai oublié de dire que Krapina, ça date d'il y a 130 000 ans, au moins, parce qu'il y a une discussion sur l'âge de Krapina, mais on est vraiment beaucoup en avant de l'arrivée des hommes modernes en Europe. Alors, leur conclusion est que les Néandertaliens ont fait de bijouterie bien avant l'apparence des hommes modernes en Europe. Mais c'est toujours cette manière de raisonner. On a quelque chose qui pourrait être interprété comme ornement personnel. On va d'ornement personnel à symbole et de symbole à langage. Un autre exemple est le fait qu'on connaît maintenant plusieurs sites où la distribution des traces de boucherie sur les ossements des grands rapaces, dans ce cas des vultures, indique que l'exploitation de ces grands oiseaux n'était pas visée sur la viande, sur la chair, mais sur l'obtention des plumes de ces grandes vultures. Et si on combine ça avec l'utilisage du manganèse, du dioxyde de manganèse, déjà évoqué par le professeur Rublin, on peut comprendre qu'il y a des gens qui font des reconstructions des Néandertaliens avec des décorations personnelles, des plumes faisant partie de leur décoration et une décoration corporelle avec des pièces de manganèse. Dans notre groupe, à Leiden, un petit groupe, il y a un collègue, Peter Hayes, qui est en train d'étudier les dioxydes de manganèse pas du point de vue de décoration corporelle, mais des autres fonctions qui je ne peux pas aborder en ce moment, mais il y a plusieurs autres fonctions envisageables pour la présence de manganèse sur des sites qui n'est pas lié à des domaines de décoration personnelle. Et aussi dans le monde néandertalien, on a des indications pour l'utilisation d'ocre rouge déjà à 250 000 ans. Ça, c'est aussi que j'ai fouillé moi-même il y a beaucoup de temps. Et là, on a à Maastricht-Belvedere, c'est près de Liège, près de la frontière belge aux Pays-Bas, nous avons trouvé quelques dizaines de petites taches rougeâtres dans un sédiment très, très, très clair. Alors, la différence dans la couleur de ces taches rougeâtres et le substrat géologique de l'aliment fait a nous permis de les voir, de les identifier. Si on serait un peu plus haut dans le sol, dans le profil pédologique, ça, on n'aurait jamais vu des trucs comme ça. Et je dois aussi dire que ça, c'était ma première fouille. J'étais très insécure. On ne savait pas. On a documenté tout. On avait la possibilité de documenter tout. Et après, les fouilles qu'on a fait après, ils étaient toujours beaucoup trop vite. Et alors, je crois que ça, c'est un truc qu'on doit aussi envisager quand on discute des problèmes comme évoqués aujourd'hui. Il y a beaucoup de fouilles, surtout en sauvetage, surtout par INRAP, qui doivent être, c'est normal, qui doivent être faites vite, mais pour trouver des petits trucs comme ça, ce sont probablement des gouttes d'un liquide riche en ocre qui était fossilisé dans le sol. Pour voir des choses, pour trouver des choses comme ça, on a besoin d'un peu de temps. Quand on a publié ça, nous n'avons pas dit que c'était un symbole pour le sang, pour la vie. On n'a pas postulé une interprétation symbolique parce qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a l'ocre rouge utilisé par les chasseurs-cueilleurs actuels comme insecticide, comme pour tannage du pot, etc. Il y a beaucoup de fonctions. Il n'est pas nécessaire, si on a des plumes ou des serres d'aigle, ou ça, d'entrer le symbole, le domaine symbolique. Ce n'est pas nécessaire. Parce que, de nouveau, ça c'est la dernière fois, pour interpréter des taches rougeâtres comme ça, on ne peut pas dire que c'est un pigment. Parce que, on peut le dire, mais le pigment est déjà une interprétation. On doit se demander quelle est la nature du matériel du couleur rouge, est-ce que c'est local ou non, est-ce que c'est autochtone, est-ce que c'est une partie du sédiment ou non, est-ce que c'est géologique. Sa présence, c'est ça, est-elle liée à l'activité humaine? À quoi a-t-il été utilisé? Si il a été utilisé comme colorant, est-ce que ça implique une décoration du corps? Et voilà, vous connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que c'est symbolique, etc., etc. C'est seulement pour dire qu'on doit être un peu prudent à aller trop loin avec nos pauvres données archéologiques, parce que les données archéologiques, ils disent très rarement non. C'est... Et pour le compliquer encore un peu plus, les ocres gravés de Blombos, qui ont été magnifiquement étudiés par Francesco Derico. Francesco a aussi collaboré à l'étude d'une autre incision géométrique, mais beaucoup plus ancienne que Blombos. Blombos date à peu près 75 000 ans. On a publié une incision géométrique très simple provenant du site de Trinil, Java. C'est la location où on a trouvé les premiers fossiles de Homo erectus à la fin du 19e siècle, trouvé par Eugène Dubois. Ça, c'est une vue sur ces fouilles. Et on a réétudié le matériel de Trinil, de l'Homo erectus, dans les réserves à Leiden. Et un collègue australien a vu sur un des moules, il y a des dizaines de moules dans la collection, entre des milliers des restes des grands mammifères, un collègue australien avait, avec une lumière un peu striking, raison, il a vu qu'il y avait un des moules avait une bizarre incision géométrique. On a fait beaucoup pour éliminer, pour que ce soit anthropique, mais, et Francesco Derico est un des spécialistes qui l'a étudié. Et on pense que cette incision géométrique a été faite par un hominidé il y a une demi-million d'années. Mais on a, bien sûr, on n'a aucune idée de la signification. On n'a aucune idée si ça avait une signification, si cette incision est un signifiant. On ne sait pas. On sait seulement que Homo erectus à Java, il y a 10 000 millions d'années, pouvait faire une incision comme ça. Peut-être parce qu'il s'ennuyait, ou on ne sait pas, il pouvait le faire. Parce que les serres d'aigle et les plumes et les dents du Château-Perronnier, on a plusieurs. Lorsque ça, c'est le seul cas d'une incision géométrique qu'on a pour cette période ancienne. Et on a besoin de répétition. On a dans l'archéologie des os modernes, ici, on a plusieurs cas d'incisions géométriques. Pas beaucoup, mais il y en a. Ici, par exemple, vous voyez des fragments d'œufs d'autruche fouillés par une équipe française à Deep Clove, en Afrique du Sud. Ils datent d'environ 80 000 jusqu'à 50 000. Et ça, c'est 2 cm pour l'échelle. On a utilisé, après avoir consommé les grands œufs d'autruche, on les a probablement utilisés comme bouteilles pour transporter de l'eau. Et les œufs étaient incisés avec des incisions géométriques. Et on a plusieurs, je crois que plus que 400, et de nouveau venant de plusieurs couches sur une grande période. Et là, on peut dire qu'on a une routine géométrique, même une codification géométrique qu'on n'a pas pour les périodes plus anciennes, bien sûr. Alors, 10 minutes. Vous voyez de nouveau l'article, une des figures de l'article de Merian. Et c'est très facile d'avoir un article comme ça, parce que l'article aussi n'adresse pas la présence ou l'absence des sépultures en Afrique du Sud. Et comme Jean-Jacques déjà a dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas des sépultures. Sépulture est peut-être déjà une interprétation. Il n'y a pas des inhumations, il n'y a pas des squelettes en contexte. Il n'y a pas des squelettes complètes. Il y en a dans le Levant, là où il y avait une expansion temporaire de l'homme moderne vers 100 000 ans, 90 000 ans. Mais alors ce n'est pas indiqué ici et sur cette chaîne. Mais vous savez, déjà abordé, évoqué par Jean-Jacques, qu'il y a un grand débat dans l'archéologie du Paléolithique moyen sur la question est-ce que les Néandertaliens ont enterré leurs morts, oui ou non. Une équipe, surtout française, a publié une nouvelle étude du site de la Chapelle aux Saints, et leur étude a été critiquée par des collègues, des amis américains qui, et je crois correctement, font la différence entre ce qu'il appelle une burial, un enterrement, alors un corps qui est couvert par sédiments, et un funeral. Un funeral, ça veut dire la même chose, un corps d'un décédé est couvert par sédiments, mais il y a un rite funéraire qui va avec ça. Alors, le burial versus funeral. Le problème de nos pauvres Néandertaliens est que la plupart des inhumations ont été fouillées il y a longtemps, dans des périodes où on n'a pas documenté les incisions dans les coupes des tranches dans lesquelles peut-être les individus ont été inhumés, etc., etc. Et cette discussion restera probablement jusqu'au moment que nous avons des nouveaux sites. Ça ne va pas être résolu avec les données qu'on a à ce moment. Mais il est quand même très important, intéressant de voir ce qui se passe avec l'arrivée de l'homme moderne en Europe. Parce que là, les hommes anatomiquement modernes, ils doivent se comporter comme des hommes modernes. Et est-ce qu'ils ont enterré leurs morts avec des rites funéraires? Est-ce que leurs données sont dominés par des funerals, dans le sens de dibble et d'autres, ou de burials. Et il y a, pour 3 années, il y avait un très important, selon moi, article a été apparu par 2 collègues qui ont analysé les rites funéraires dans le Paléolithique supérieur. Alors, les rites funéraires faits par des hommes modernes en Europe après 40 000 ont. Et je crois qu'il est très important de souligner leurs conclusions. Ils ont étudié les données pour toute l'Eurasie, alors pas seulement l'Europe ou l'Europe de l'Ouest ou le Sud-Ouest de la France, mais toute l'Eurasie. Et ils constatent qu'il y a un petit nombre de sépultures, 3 pour tous les 1000 ans, que les plus anciennes sépultures du Paléolithique supérieur sont beaucoup plus récentes que l'arrivée de l'homme moderne, on le sait. Mais je crois qu'il est aussi important qu'ils disent que les sépultures du Paléolithique supérieur ont des degrés d'élaboration variables. Il n'y a pas beaucoup de variations dans la manière dont ils ont traité leur pauvre décès. Défunte. Parce que nous avons l'habitude de voir la politique supérieure du point de vue des cas exceptionnels comme ça. Ce sont des sépultures proches de Moscou, du gravatien de cette région-là, à peu près 25 000 ans. Ici, deux jeunes avec des lances, pas en bois comme Schöningen, mais en ivoire de mammouth. Ce sont des sépultures très, très riches, mais aussi, et ça c'est souligné par l'article que je viens de discuter, ils sont très exceptionnels. Ce sont des cas très exceptionnels, comme Sungir, mais the average burial, l'inhumation normale dans le Paléolithique supérieur, était très, très, très sobre, pas avec des indications pour des rites funéraires. Lorsque les cas exceptionnels, comme Sungir, continuent à dominer notre narratif sur les rites funéraires des hommes modernes. Et je suis presque là. Ce qui est intéressant, ce qui est très visible dans les données archéologiques, je comprends de notre manière pourquoi Mary n'a pas indiqué ça. C'est quelque chose qui a déjà été abordé par Jean-Jacques. Et ça, c'est la catégorie Innovative Technologies, technologies innovatives, qui sont complètement absents dans le monde néandertalien et qui commencent en Afrique du Sud à un site qui a été fouillé par Curtis Marion. Et là, il s'agit du pyrotechnologie, il s'agit de l'utilisation du feu pour améliorer le caractère des matières premières. Et il s'agit concrètement de la chauffage d'un type de matière première, silcrète, c'est un type de, un peu comme le silex, qui est chauffé sous un feu. Et l'histoire, c'est qu'en chauffant cette matière première, cette silcrète, il devient plus facile à tailler, etc., etc. Et l'équipe de Pinnacle Point a publié cette conclusion que le feu était un engineering tool pour modifier les caractères de matière première dans le journal Science. C'était pour l'équipe. C'est une très bonne illustration d'une technologie innovative faite par les hommes modernes en Afrique du Sud. Jean-Jacques venait de vous présenter une des illustrations de pyrotechnologie utilisée par les Néandertaliens il y a plus que 200 000 ans. Vous voyez ici un éclat en silex de deux côtés, échelle de 2 cm, trouvé en Italie au moins 200 000 ans. Et le silex est enveloppé dans une colle très forte, une braie de bouleau, un poids de bouleau qui a été faite en ramassant l'écorce de boulon et le chauffant dans des températures très spécifiques et avec le réglage de l'oxygène. Avec la poterie, il est facile de le faire, mais les archéologues expérimentaux d'aujourd'hui ont beaucoup de problèmes à reproduire la production des brais de boulot comme ça. Ça, c'est une procédure technique qui est beaucoup plus compliquée que le chauffage de silcrète sous un feu. On a que quelques exemples. Il y a un autre très joli exemple parce qu'à Campitel, à la carrière de Campitel, il y a deux ou trois, au moins deux, et on doit attendre pour plus que 100 000 ans pour trouver un autre. Et ça, c'est d'un site en Allemagne de l'Est, Königsauer, où on a un petit, c'est 3 cm, pièce de brais de bouleau. C'est un matériel destillé, c'est un nouveau matériel créé par les Néandertaliens qui ont expérimenté avec ce matériel. Plus compliqué, et je crois que tout le monde est d'accord là, plus compliqué que le chauffage des silcrètes qui a fait un article en Science pour montrer la supériorité des hommes modernes. OK, pour résumer, j'avoue que c'était un tour un peu erratique, mais je crois que la conclusion pourrait être que bien que Néandertaliens et Homo moderne étaient, du point de vue phénotypique, ils étaient très, très, très différents, comme le professeur Hublin vous a raconté les dernières semaines, ils étaient très, très différents. Et ce n'est pas remarquable après une séparation de plus d'une 2000 millions d'années. Dans le domaine que j'ai abordé cet après-midi, il y a beaucoup de similarités, comme Jean-Jacques venait de dire aussi, il y a beaucoup de similarités entre les Néandertaliens et leurs contemporaires en Afrique du Sud. La grande différence, je veux dire que la différence entre Homo moderne avant la colonisation de l'Europe et après leur colonisation de l'Europe, ça fait la grande différence. Lorsque les Homo modernes et les Néandertaliens et leurs contemporaires en Afrique, il est surprenant que les similarités du point de vue archéologique sont si fort. La grande différence, c'est après 40 000. Avec, ni dans le monde de l'homme moderne, ni dans le monde néandertalien, on n'a rien qui représente de l'art figuratif. Après 40 000 ans, c'est partout. En 3D, en 3D, en 2D, c'est très, 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 très riche. Comme illustré par des sculptures en ivoire de l'Allemagne du Sud. Vous avez la grotte Chauvet. Okay, il y a un débat sur l'âge exact de grotte Chauvet, mais ça n'existe pas dans le monde ni néandertalien ni moderne avant 40 000. Et depuis un an, nous savons que ce n'était pas seulement en Europe qu'on a créé l'art pariétal à peu près à partir de 40 000 ans. À l'autre côté de la répartition des hommes modernes, en Sulawesi, en Asie, on a redaté des dessins dans les grottes. Quand j'ai dit, on a pensé d'être d'âge holocène, alors maximalement 10 000 ans. Et maintenant, on sait que c'était des dessins qui étaient plus ou moins contemporains de ce qui se passait en Chauvet. Et que les hommes qui ont fait ça étaient les contemporains des sculpteurs des petites lions que je viens de vous montrer en Allemagne du Sud. Et ça, c'est ici, c'est sur Sulawesi, les découvertes des grottes ornées du karst Maros. à plus que 10 000 kilomètres de l'ouest de l'Europe. Et c'est aussi à ce temps-là que les hommes modernes savent franchir une frontière biogéographique, la frontière entre Sahul. Sahul, c'est Australie et la Nouvelle-Guinée combinées par la baisse du niveau marin. Sahul et Sunda. Sunda, c'est cette combinaison des îles qui devient un petit continent avec qu'on sait vient une grande. Sahul, vous comprenez, je crois. Et Sunda et Sahul, il y avait des hommes à Trinil et à Flores pour des centaines de milliers d'années déjà. Et ce sont les hommes modernes qui ont franchi cette limite biogéographique entre Sahul et Sunda il y a à peu près 50 000 ans. Alors, il se passe quelque chose dans cette période. Et ce n'est pas seulement l'art qui est très riche ici, l'art des cavernes à Sulawesi, la colonisation de la Nouvelle-Guinée et l'Australie avec des bateaux. Ce sont aussi les hommes modernes après 40 000 ans qui vont coloniser les zones arctiques dans le nord. Alors, la différence entre l'archéologie des hommes modernes après 40 000, je crois que c'est beaucoup plus important que les différences entre l'homme moderne et leur contemporain. Ça, c'est bien sûr une histoire très simplifiée et je suis sûr que les Néandertaliens vont captiver notre intérêt et l'intérêt des chercheurs et de vous, j'espère, pour les années à venir. Je vous remercie.